15h-16h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline. Comment ça va aujourd'hui?
Bonjour Olivier,
ça va bien. De ce beau temps, de la Toussaint.
Oui, vous ferez quand même.
Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles. Votre vécu, comme vous le savez, nous intéresse. 600 000 personnes seraient atteintes de troubles schizophréniques en France. Cette maladie psychiatrique, dont les premiers symptômes apparaissent entre 18 et 25 ans, provoque une perception erronée de la réalité. Les malades souffrent de délires psychiques, de crises de panique et d'angoisse, d'hallucinations. La maladie a aussi des clichés. Les personnes atteintes de troubles schizophréniques seraient dangereuses, violentes, mais on le verra, il n'en est rien. C'est une maladie souvent incomprise, car méconnue. Alors que se passe-t-il dans le cerveau d'une personne malade? Comment prend-on en charge cette maladie? Comment accompagner celui qui en souffre? Les troubles schizophréniques et leur prise en charge, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et vous nous appelez, n'hésitez pas au 3921, le standard d'Europe 1. Vous nous laissez un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Lucie au 3921 sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors moi j'ai 67 ans. Oui. Et je suis dans le sud de la France.
D'accord. Alors Lucie, il y a 20 ans, votre fils a commencé à développer des symptômes déroutants et troublants. Oui. Racontez-moi comment cela est arrivé.
Alors c'est arrivé, il se renfermait d'abord sur lui-même.
Oui.
Donc il sortait plus et ça m'interrogeait beaucoup parce que c'était pas dans ses habitudes, parce que c'est quelqu'un d'excessivement social. Mmh. Et bon, on entend parler de crise d'adolescence, donc pas de souci. Jusqu'à un moment donné où il commençait à avoir des comportements un petit peu bizarres qui
m'interpellaient.
Bah, par exemple, il crachait dans la rue. Bon, son ouais. éducation fait que c'est pas le truc. Hein,
ouais.
c'est pas... et puis un jour, en revenant du ski, il s'est fait tomber par terre. Il était allongé, il parlait tout seul.
Ouais.
Et là, j'ai commencé à consulter. Comme il n'était jamais malade, c'est le pédiatre, dans un premier temps, qui nous a beaucoup aidés, parce qu'il avait quand même une certaine connaissance. Et bon, voilà. De là, on est allé voir un pédopsychiatre. Mais le nom de la maladie, que je ne connaissais pas du tout cette pathologie, on l'a su pratiquement 2 ans après.
Ouais.
On a eu 2 ans d'horreur où on comprenait rien.
C'est assez compliqué, hein, je crois. De toute façon, les médecins prennent leur temps hein, pour diagnostiquer.
D'une part, les médecins prennent leur temps pour diagnostiquer la pathologie, parce que comme c'est une pathologie qui est extrêmement invalidante,
ouais.
Et qui est très stigmatisée, qui fait peur, etc., etc. Donc les médecins prennent leur temps. Et par contre, le gros souci dans notre pays, c'est que les généralistes ne sont absolument pas formés
ouais.
sur cette pathologie. Elle est beaucoup méconnue et on se retrouve, mais enfin, c'était l'horreur.
Livré à vous-même. Quel âge avait votre fils lorsque les premiers troubles sont arrivés?
Il avait aux environs de 17 ans et c'est suite à un chagrin d'amour.
Suite à un chagrin d'amour, d'accord.
Voilà. Quand je vois d'autres parents, c'est suite à des décès,
ouais.
suite à des divorces, suite à une grosse pression sur les études. Donc tous les états de stress sont très très mauvais parce que ça peut déclencher toutes sortes de maladies.
C'est généralement dû à un choc émotionnel. On le verra aussi avec le cannabis,
voilà.
hein, notamment lorsqu'on a un terrain propice à développer ce type de trouble. Le cannabis est fortement déconseillé. De toute façon, il est déconseillé en règle générale, mais il est vrai que le cannabis, votre fils ne touchait
non,
pas à ça?
Non, non, les médecins m'ont confirmé, parce que moi je me suis inquiétée, j'ai fait des recherches.
Oui.
J'ai même trouvé dans ses courriers un courrier de Mensa, l'association des surdoués, où j'ai tout découvert que mon fils, je savais qu'il était intelligent, mais de là à être surdoué, donc j'ai fait une recherche et j'ai découvert que Mensa, voilà, c'était l'association internationale des surdoués, et oui. il y avait des correspondances, voilà. Et voilà, je souligne ce point de l'intelligence parce que c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup dans cette pathologie, mais il n'a jamais fumé.
Est-ce voilà. qu'il arrivait à vous parler, à mettre des mots sur ce qu'il ressentait? Est-ce que on évoque souvent des voix hein,
alors,
qui apparaissent?
Effectivement, moi je me suis aperçue qu'il entendait des voix
oui.
et il communiquait avec Dieu, donc c'était des délires.
Ouais.
voilà, c'est des délires par rapport à Dieu. Il était l'homme préféré de Dieu.
Des délires mystiques, ouais.
Voilà, des délires mystiques, excusez-moi. Et c'est vrai que, bon, ça peut être paniquant, hein, ce genre de choses, parce que, voilà, alors il a été élevé dans la religion catholique, mais de là à parler avec Dieu, ça
n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir aussi. En 20 ans, voilà. En fait, comment les symptômes de votre fils ont évolué? Est-ce qu'il a accepté de prendre des traitements? Est-ce que.
Au niveau des soins, c'était terrible parce que c'est vrai que bon, il se renfermait sur soi et personne vient au domicile.
Oui.
C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous déplacer et d'aller voir le psychiatre puisqu'il n'y a pas de prise en charge à domicile qui existe. Donc pendant plusieurs mois, c'est moi qui allais, qui racontais au psy, qui avait accepté de donner des médicaments. J'ai donné des médicaments en cachette. Oui. C'est-à-dire que je mettais les gouttes dans un verre. Enfin, voilà, je faisais un peu... Et ce qui fait qu'il a commencé à prendre son traitement. Mais il voyait peu souvent le psychiatre parce qu'il refusait d'y aller. Et dans ces cas-là, que ce soit le généraliste ou le psychiatre, moi, le psychiatre m'a dit, vous me poserez 1000 fois la question. J'avais demandé de venir à la maison. Je vous répondrai 1000 fois. Vous avez qu'à me l'amener.
Oui. Est-ce que...
Moi, c'est de la non-assistance à personne en danger, quand même.
On sait que c'est très compliqué pour les malades.
Il y a une législation qui est irréaliste.
Ouais. En fait, est-ce que finalement il a accepté de prendre un traitement? Est-ce que ça s'est amélioré sur les 20 ans de souffrance qu'il a vécu?
Ça s'est amélioré parce qu'effectivement j'ai eu une chance, voilà, le hasard a voulu qu'on me donne les coordonnées d'un infirmier psychiatrique qui était quelqu'un d'une humanité exceptionnelle, qui a accepté de venir à la maison.
Oui.
Il m'a mis en contact avec une psychiatre qui est sur Marseille, qui est aussi exceptionnelle, parce que à partir de là, il a eu un suivi nickel.
Il a eu quoi comme type de traitement, hein? Une piqûre
Au départ, les piqûres n'existaient pas. Maintenant, il y a la piqûre. Et c'est vrai que la piqûre facilite beaucoup parce que c'est une fois toutes les 3 semaines.
Alors, Lucie,
il a quand même ses 2 cachets par jour. Par contre, le fait, moi, mon choix s'est porté sur le garder à la maison et le soigner à la maison, l'entourer, qu'il n'y ait pas de stress, qu'il soit coucouné, qu'il ait l'amour de son papa. Mon amour, moi, c'est vrai qu'il me rejetait beaucoup parce que je l'ai fait soigner.
Ouais.
Mais à côté de ça, ça lui a permis... Donc, il prend ses médicaments, il faut qu'il y ait un témoin. C'est-à-dire qu'il veut absolument montrer qu'il prend son médicament, ce qui fait qu'il n'a jamais, jamais, jamais rechuté.
Ce qui est important dans cette maladie, c'est bien évidemment l'entourage, hein, comme dans chaque maladie, mais plus particulièrement dans celle-là. Nous allons continuer à parler de cela, Lucie, et de parler du traitement, hein, que votre fils a accepté de prendre à un moment, tout de suite après, dans quelques instants.
Oui. Europe 1. Comme Lucie, vous accompagnez l'un de vos proches malades atteints de troubles schizophréniques. Racontez-nous comment vous l'accompagnez au quotidien. On vous écoute au 3921, vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et sur Twitter, hashtag Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous nous demandons cet après-midi comment prendre en charge un malade atteint de schizophrénie. C'est votre histoire, celle d'un de vos proches, vous nous racontez au 3921.
Et nous sommes toujours avec Lucie au 3921 qui nous expliquait que son fils avait vécu ses premiers troubles de cette maladie qu'est la schizophrénie à l'âge de 18 ans, que cela faisait maintenant près de 20 ans. On va revenir sur le traitement, Lucie. Il a accepté cette piqûre facilement et est-ce que finalement lorsque ça allait mieux, en fait on sait que les malades de schizophrénie lorsque ça va mieux décident d'arrêter. Est-ce que lui est conscient qu'il faut garder ce traitement?
Alors c'est un petit peu compliqué parce que dans ses délires il explique que ce sont les médicaments qui l'ont rendu malade.
Oui.
Mais en même temps il dit qu'il prend toujours son traitement et qu'il prendra toujours son traitement pour prouver que s'il rechute, c'est à cause des médicaments. Mmh. Donc c'est un petit peu alambiqué, mais d'un autre côté, ça permet de voilà, il est soigné, il évolue très très bien, il arrive à avoir petit à petit une vie sociale, il fait beaucoup de sport.
Oui.
Et c'est vrai que quand j'interroge des gens qui font partie du club sportif, ils me disent qu'il est très agréable, qu'il est enjoué, voilà, j'ai que des compliments sur lui, qu'il est gentil, voilà.
Vous parliez de l'entourage, hein, déjà de vous et de votre mari. L'entourage compte beaucoup, bien évidemment. Les proches sont-ils compréhensifs? Est-ce que votre
famille...
Non,
pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai eu des moments d'horreur avec ma famille. Hein,
c'est-à-dire
un jour, j'appelle mon papa pour lui dire que mon fils sortait de l'hôpital, puisqu'il y a eu quand même une hospitalisation de quelques jours, avant d'aller en clinique, où c'était un petit peu plus contenant, enfin, c'était plus facile. Et c'est vrai que quand j'ai appelé à 20h, je me suis faite, voilà, on n'appelle pas à 20h, tes histoires ne nous intéressent pas, tu es pris de ne plus nous déranger. Donc, le rejet complet.
Oui.
Maman, j'ai peur.
Oui.
Donc, on n'appelle pas pour pas te déranger. Voilà, dans ma famille, ça a été le rejet. Et puis, les amis, ben, ils disparaissent. Ceux qui restent, ce sont les vrais. Mais vous devenez infréquentables. Et même dans le boulot, les deux dernières années, j'ai eu des soucis.
Vous dénoncez le manque d'humanité hein, de beaucoup autour de vous.
Ah, c'est effarant, le manque d'humanité. Le manque d'humanité et je pense que c'est dû à la méconnaissance et à l'incompréhension. Et aussi peut-être historiquement, parce qu'il faut savoir que pendant la dernière guerre mondiale, en France, les hôpitaux psychiatriques n'étaient pas alimentés en nourriture. Les malades mouraient de faim dans un pays comme le nôtre. Ça fait froid dans le dos. Par contre, le côté positif de ça, si je peux me permettre, c'est que les infirmiers les avaient un peu poussés, avaient poussé les malades à travailler la terre. Et le travail est une thérapie.
Vous parliez justement, vous évoquiez cet infirmier qui est venu chez vous. Ça a été important pour vous que quelqu'un du corps médical vienne chez vous pour s'occuper de votre fils.
Voilà, il a sauvé la vie à mon fils. Parce que, bon, dans cette maladie, il y a quand même une personne sur quatre qui se suicide parce que la souffrance psychique est gigantesque. Et donc, je pense que ce monsieur a sauvé la vie à mon fils. Par contre, il est allé contre la loi, c'est-à-dire qu'il prenait des risques. Il l'a fait sur le plan personnel.
On évoque souvent la situation des infirmiers qui doivent se déplacer, faire la piqûre à des malades souffrant de schizophrénie. Et il est vrai que beaucoup refusent par peur de vivre quelque chose de violent parce que on parle peu de cette maladie. Et quand on en parle, on représente les malades schizophréniques comme des gens violents et dangereux. Est-ce que vous avez senti ça autour de vous aussi, ce regard et ce jugement-là ?
Mais bien sûr, il a été rejeté à plusieurs reprises. Et maintenant, je suis obligée de le protéger, de faire attention, de ne pas parler de sa pathologie, sinon il est rejeté complètement.
Est-ce qu'on devrait parler plus et mieux de ces troubles schizophréniques ? Est-ce que vous pensez qu'on n'en parle pas assez, qu'on n'explique pas assez ce que c'est ?
Alors, moi, je pense qu'il faut absolument, mais absolument, que la presse apprenne que cette pathologie, c'est une maladie, qu'on ne l'associe pas à la violence parce que ça fait des ravages. Moi, je me suis trouvée à une réunion où on parlait de la presse politique qui emploie ce mot à tort et à travers, en permanence, pour faire de l'audition. Et une maman expliquait que son fils s'est suicidé après une émission de télévision parce qu'on avait associé cette pathologie à la violence.
En tout cas, ce qui est sûr...
Je ne suis pas comme ça. Mmh. Et en ce qui me concerne, j'ai un fils qui est d'une gentillesse extrême.
Et ça va durer, Lucie, tant que vous l'entourez. Merci beaucoup pour votre appel et votre témoignage de 3921. Dans quelques instants, nous accueillerons Florent. Il a lui-même des troubles schizophréniques et en fait une force.
Europe 1. À quoi ressemble votre vie aux côtés d'une personne schizophrène ? Vous êtes atteint de cette maladie ? Racontez-nous votre quotidien. On vous attend au 39 21 50 centimes la minute. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous parlons de la schizophrénie, une maladie finalement assez méconnue. Vous témoignez, venez nous raconter votre histoire au 39 21.
Et nous avons eu Lucie au 39 21 qui nous expliquait que son fils avait connu ses premiers troubles à l'âge de 18 ans et que ça a resté compliqué même si... il essayait à travers le sport d'avoir une vie sociale. Nous sommes maintenant avec Florent. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Florent.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, je vous appelle de Paris et j'ai 38 ans.
D'accord. Vous viviez une enfance paisible, Florent, jusqu'à l'adolescence où tout a basculé. Vous dites qu'est apparu un autre, une voix inquiétante. C'est arrivé d'un coup, brusquement ?
Oui, c'est arrivé comme un flash qui vous foudra l'esprit. En fait, c'est arrivé à 13 ans.
Oui.
Et c'était vraiment quelque chose que je souhaite à personne parce que ça vient sans prévenir. Il n'y avait pas de signaux avant-coureurs. Et d'un seul coup, il y a une voix qui s'immisce, une voix que j'ai appelée l'autre.
Oui.
Dans mon livre que j'ai écrit sur le sujet, sur la schizophrénie obscurcartée.
Oui.
Et c'est vraiment traumatisant parce qu'on a l'impression qu'une entité prend le contrôle un peu de notre cerveau pendant un certain laps de temps.
Mmh. Lucie évoquait un choc émotionnel. Est-ce que à 13 ans, vous avez vécu un choc?
Oui, alors oui, j'ai eu un choc émotionnel. Bah après, pour un enfant de 13 ans, moi je voulais être basketteur professionnel, je me suis blessé gravement au genou.
Oui.
Donc on m'a dit que je pourrais pas. Dans un premier temps, on m'a dit que le basket c'était fini pour moi. Donc quand on dit ça à 13 ans à un gosse,
ouais,
ça fait mal. Surtout quand le rêve c'est de devenir basketteur professionnel. Mais je me suis accroché et j'ai quand même pu continuer à faire du basket. Après, bon, il m'a fallu beaucoup de temps. J'ai dû faire beaucoup de rééducation, tout ça. Mais j'ai pas pu devenir basketteur professionnel. Hein. Mais par contre, j'ai pu quand même rejouer au basket. Quoi. Donc faut quand même. Il faut faire
mesurer
ses propos et quand on est médecin ou quand on est chirurgien. Et il faut aussi se faire confiance en son corps et persévérer, exactement.
Alors cette voix, vous vous sentiez obligé de l'écouter. Comment ça se passait en fait lorsque vous l'entendiez?
Ouais, alors c'était très paradoxal. Dans un premier temps, il y a la raison qui te dit, bah écoute, c'est pas possible ce que tu crois entendre ou voir, parce qu'il y a aussi des hallucinations visuelles que j'en ai fait aussi. Et donc du coup, on se dit, bah non, c'est pas possible dans un premier temps. Et puis quand on est trop en crise, il y a la folie qui vient et là on calcule plus rien quand on est dans un monde. En fait, moi je dis souvent ça, c'est comme si on était dans un monde parallèle où,
ouais,
comme vous êtes assis devant votre télévision, vous regardez un film, sauf que là vous êtes plus tranquillement devant votre télévision, devant une réalité parallèle, vous la vivez et tout ce que la voix, l'autre vient vous donner ou vous ordonner, bah, vous y croyez au final, quoi. Pour vous, c'est votre réalité en fait.
Comment votre entourage a-t-il géré ces crises? Est-ce que c'était vos parents qui géraient en premier lieu ce comportement?
Mais en fait, mes parents, ils se sont rendus compte très tardivement. Alors moi, il faut savoir que j'ai beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, je suis rétabli, mais j'ai mis 10 ans avant de dire ce que j'avais, en fait, de mettre des mots sur mes mots parce que je me cachais, je me terrais dans ma chambre quand ça n'allait pas. Je disais que je jouais aux jeux vidéo, ce genre de choses, vous voyez. Et,
personne n'avait remarqué que vous entendiez cet autre.
Si. Non, la voix, non. Personne n'avait remarqué, en fait. À tel point que quand Obscurcarté est sorti, même mes amis les plus proches n'étaient pas au courant. Et j'étais très très surpris, c'est moins qu'on puisse dire.
Comment
je me cachais, donc on a cru que c'était une crise de l'adolescence. En fait, mes parents, ils ont dit, bon, il est turbulent, il y a des moments où il n'est pas bien, mais ils ont mis ça sous le compte de l'adolescence, comme beaucoup de parents, je pense.
Ouais. Et vous n'avez jamais été soigné, donc, en 10 ans?
De 13 ans à 24 ans, j'ai pas été soigné, non, pas du tout. Et c'était très paradoxal, parce que j'avais des moments, en fait, où ces moments de crise, mais comme je revenais à un état de normalité, quelques temps après,
oui,
je mettais ça derrière moi en espérant que ça se reproduirait plus, en fait, en me disant, bon, et puis le problème, c'est que ce que je faisais, c'était des crises, des bouffées délirantes, et comme j'en ai fait à répétition, bah forcément, il y a un moment, il y a une crise qui est plus forte qu'une autre, et là, à 24 ans, là, j'ai secoué très violemment mon papa, donc toute la famille s'est réunie pour nous séparer lors d'un repas familial, avec ma copine de l'époque, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a, bah, forcément, il y a quelque chose qui tournait pas rond, parce que là, ça se voyait, quoi.
Vous avez été pris en charge à partir de cet incident-là?
À partir de ce moment-là, voilà, exactement. Ouais. J'ai été pris en charge. Alors moi, j'ai accepté d'aller voir le médecin, mais je ne savais pas du tout ce qui m'attendait.
Ouais.
C'est-à-dire que je ne savais pas que j'allais me retrouver dans un hôpital psychiatrique, que j'allais avoir des médicaments qui, dans un premier temps, étaient très très lourds pour quelqu'un qui est sportif, dormir et hyperactif, dormir 20 heures par jour les premiers jours. Moi, c'était très mal vécu.
Mmh.
Donc au début, en tout cas, après les traitements ont diminué. Là, j'ai retrouvé progressivement mes sensations et une vie plus normale, mais il a fallu beaucoup de temps pour se reconstruire, ça se compte en années, quoi.
Alors vous êtes devenu de soigné à soignant, hein. Vous êtes aujourd'hui aide-soignant dans l'unité psychiatrique où vous aviez été vous-même interné. Pourquoi ce choix pour aider les personnes comme vous?
En fait, j'ai eu une équipe. Enfin, déjà à la base, j'ai essayé de faire la fac de droit et puis du coup la maladie est venue stopper mes études. Mais j'étais auxiliaire de vie pour payer mes études de droit au tiers de vie auprès de personnes handicapées. Et quand j'ai vu de toute façon que je pouvais plus faire du droit parce que j'avais des difficultés de concentration,
oui,
je me suis dit, bah je vais essayer de faire une, à l'époque ça s'appelait une EMT, une évaluation au milieu de travail, et j'avais un ami qui était aide-soignant, je vais essayer de faire ça. En plus, j'ai voulu rendre ce qui m'avait été donné parce que j'ai eu une équipe soignante à l'hôpital où j'ai été, qui a été super, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Je me souviens de l'infirmier, les premières fois où j'ai pu sortir, parce qu'au début, j'avais pas le droit de sortir de l'unité, mais j'ai pu sortir dans le parc, il a eu des mots très rassurants, il m'a dit, tu sais, on peut s'en sortir, faut être patient, enfin. Je me souviens vraiment d'une équipe super, je me suis dit, je vais essayer de rendre ça. Et moi, en fait, j'avais un problème quand j'étais interné, c'est que je me disais, mais c'est dingue, on a l'impression que personne s'en sort, parce que à regarder certaines séries ou certains médias, pas tous bien évidemment, on avait l'impression que c'était une maladie où il n'y avait pas d'issue. Donc je me suis dit, si toi tu arrives à t'en sortir, il faudrait que tu essayes de donner ce message d'espoir, en fait, quoi.
D'où l'importance, hein, comme l'évoquait Lucie, de l'entourage pour ces patients souffrant de schizophrénie. Florian, vous avez ensuite pu écrire un livre, hein, l'ouvrage Obscure Clarté, aux éditions Laïus. Aujourd'hui, vous êtes dans l'écriture d'un roman, J'ai tendu la main. Merci infiniment, hein, Florent, pour votre témoignage au 3921. Dans un instant, nous allons accueillir le professeur Fabrice Bernat. Il est praticien hospitalier dans le service de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il est aussi co-coordinateur des centres experts schizophrénie de la Fondation Fondamentale.
Julie a 42 ans, elle témoigne au 39-21. La schizophrénie s'est déclarée il y a une dizaine d'années. J'ai été internée plusieurs fois, de force. Les crises me mettaient dans un état second. Depuis, je n'ai plus été internée, mais les crises, j'en ai encore. Elles sont moins violentes, j'apprends à les gérer, à rester chez moi, rester tranquille.
Europe 1.
Vous êtes atteint de schizophrénie, l'un de vos proches est schizophrène. On vous écoute au 39-21. Vous nous écrivez, nous vous lisons aussi sur Twitter, hashtag Europe 1. Délire de persécution, angoisse, hallucination. Vous êtes atteint de schizophrénie. Vous accompagnez au quotidien une personne qui souffre de cette maladie. Vous n'hésitez pas à témoigner. Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec le professeur Fabrice Bernat, praticien hospitalier dans le service de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg et aussi co-coordinateur des centres experts schizophrénie de la Fondation Fondamentale. Bonjour professeur et merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Ma première question concerne les symptômes de la schizophrénie. Pourquoi apparaissent-ils aussi tardivement à l'âge de 18-20 ans en règle générale?
Chérie, il y a plusieurs raisons. Bonjour déjà et
bonjour.
Merci de me donner l'occasion de prendre la parole à votre antenne. Il y a plusieurs raisons. Je dirais que tout n'est pas encore complètement compris pour cette maladie, mais une des raisons principales est que notre cerveau, qui est en période de maturation au moment de l'adolescence et qui connaît aussi plusieurs événements émotionnellement chargés au moment de cette période assez critique, eh bien, va être dans une période de fragilité particulière, qui explique que justement ces symptômes, qui ont été très bien décrits par vos auditeurs tout à l'heure, peuvent apparaître à cette période particulière.
Que se passe-t-il dans le cerveau pour qu'une personne puisse entendre des voix ou se sentir persécutée? Qu'est-ce qui se passe exactement?
Le modèle le plus classique pour expliquer comment des symptômes comme des hallucinations, par exemple, apparaissent, eh bien, est de considérer qu'il y a, dans certaines régions particulières du cerveau, une sorte de tempête neurobiologique, une sécrétion de dopamine qui est augmentée et qui explique le fait que des perceptions anormales apparaissent ou que des distorsions des perceptions émergent.
Est-ce que les traitements sont bien adaptés aujourd'hui? Est-ce que c'est une maladie qui se soigne, professeur?
Alors, c'est une maladie qui se soigne, je pense que c'est extrêmement important de le préciser, puisque il est important vraiment de véhiculer cette idée que cette maladie n'est pas une maladie chronique avec laquelle, on évolue toute sa vie et sans aucun traitement. C'est justement dans ce sens-là qu'allait le témoignage de Florent tout à l'heure. C'est une maladie qui donc se soigne par des médicaments, et des médicaments qui, je dirais, sont quand même plutôt efficaces pour traiter les symptômes positifs de cette maladie, donc ceux que vous avez cités tout à l'heure.
Oui.
Les idées bizarres, les hallucinations, mais on a moins évoqué d'autres types de symptômes qui, eux, sont un peu plus difficiles à soigner par des médicaments et qui nécessitent d'autres types de thérapeutiques.
Mais quel type de quels symptômes vous parlez?
Alors, on a souvent l'image effectivement de la schizophrénie qui se traduit par des hallucinations, par des idées bizarres, par un comportement qui est agité, mais il y a aussi tout l'autre plan de la maladie qui sont les symptômes négatifs, c'est-à-dire des personnes qui ont plutôt tendance à se retirer de la société, avoir des difficultés à trouver de la motivation, des difficultés à organiser leurs pensées pour mener une action à bien, des personnes qui se plaignent aussi de difficultés cognitives, et tout ce pan de symptômes se traite beaucoup plus par des approches de réhabilitation psychosociale, donc des interventions qui impliquent des équipes de réhabilitation qui vont réentraîner à la fois les fonctions cognitives et puis accompagner les patients dans le quotidien et dans la capacité à réaliser des projets, même parfois relativement simples pour eux.
Y a-t-il des personnes qui sont plus prédisposées que d'autres? Est-ce qu'il y a un terrain plus fertile chez certaines personnes pour être amenées à vivre ce type de trouble?
Alors en effet, on décrit pour l'ensemble de la schizophrénie globalement un risque génétique augmenté, c'est-à-dire que quand il y a eu des troubles schizophréniques dans la famille ou quand il y a des troubles psychiatriques, même pas forcément que de la schizophrénie dans la famille, le risque est augmenté. Après, selon d'autres lectures cliniques, on peut aussi discriminer dedans des formes de schizophrénie dans lesquelles ce risque génétique paraît plutôt faible, donc les antécédents familiaux vont jouer relativement peu, oui. Tandis que dans d'autres sous-formes, on a des sous-formes plus fortement chargées, effectivement.
Mmh. Lucie, en début d'émission, dénonçait le manque de prise en charge de ce type de pathologie. Comment prend-on en charge aujourd'hui une personne qui présente des troubles schizophréniques ?
C'est une prise en charge qui implique de nombreux acteurs en réalité. C'est vrai qu'au départ, on a besoin d'une prise en charge initialement médicale qui va permettre à la fois de poser le diagnostic et parfois, effectivement, comme disait la personne qui s'est exprimée, ça peut prendre un petit peu de temps pour bien repérer les symptômes et pour être bien sûr de poser le bon diagnostic. Mmh. Ensuite, donc, il y a des médicaments qui sont là pour traiter les symptômes bruyants de cette maladie. Mais je dirais, le suivi ne se limite pas à une prise en charge médicale. Il y a tout un ensemble d'intervenants, des infirmiers, des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux, des personnes du médico-social qui vont être impliquées à un moment ou à un autre de la prise en charge pour permettre non seulement de traiter les symptômes, mais surtout de pouvoir se rétablir, c'est-à-dire proposer aux personnes ensuite un accompagnement pour réaliser leur projet d'insertion professionnelle ou de formation ou encore de réintégration dans un logement pour des personnes qui sont en situation précaire.
On va continuer, professeur, à parler de cette prise en charge de la schizophrénie. Vous restez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes praticien hospitalier dans le service de psychiatrie des hôpitaux universitaires. Dans quelques instants, nous accueillerons Joséphine et Christine. Elles sont toutes les deux mères de personnes atteintes de troubles schizophréniques.
Vous êtes schizophrène, vous êtes prisonnier d'une autre réalité, c'est le cas d'un de vos proches. Venez nous expliquer, venez nous raconter, on a envie de vous entendre sur Europe 1 au 39-21. La schizophrénie, une maladie assez méconnue, pourtant assez répandue, qui souffre de préjugés. Vous êtes schizophrène, l'un de vos proches, venez nous faire part de votre témoignage. Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et nous sommes en ligne avec Joséphine et Christine. Bonjour à vous deux et soyez les bienvenus sur l'antenne d'Europe 1. Joséphine, votre fille a présenté ses premiers troubles à l'âge de 23 ans. Christine, votre fils avait 18 ans. Je me tourne d'abord vers vous, Joséphine. Vous dites que vous sentiez votre fille déprimée un peu, ne pas être bien dans sa peau, dans sa tête. Par quoi se sont traduits les premiers épisodes violents d'hallucination ?
Alors, bonjour. Les premiers épisodes violents, ça a été une crise assez forte où on ne pouvait pas l'approcher, oui. Où on ne pouvait pas la prendre dans nos bras, où on voyait qu'elle était terrifiée, mm-hmm. Et on ne comprenait pas du tout ce qui se passait parce qu'elle nous tenait des propos, notamment autour d'angoisses très fortes sur la mort qui nous impressionnaient beaucoup.
Mm-hmm. Christine, vous, c'est un ami de votre fils qui vous a prévenu qu'il était en train de faire une grosse crise. Est-ce que vous avez pensé tout de suite à des troubles schizophréniques ? Christine ? Bon, je ne vous entends pas, Christine, excusez-moi. Joséphine, en fait, donc, lorsque votre fille a eu ces crises de peur, en fait, ça a duré combien de temps lors de cette première crise ?
Comme nous ne pouvions pas savoir ce qui se passait ni la contenir, nous avons appelé les urgences et nous l'avons accompagnée à l'hôpital.
Et comment ça s'est passé ensuite ?
Alors on a été pas très bien reçus parce qu'on nous a demandé si elle avait pris de la drogue ou du LSD, donc vous prenez un petit peu ça dans la figure.
Ouais, ouais.
Puis ensuite, on l'a hospitalisée, on nous a dit que pour l'instant on ne savait pas ce que c'était, que ça pouvait être une tumeur au cerveau mais qu'il n'y avait pas d'IRM disponible, donc ça aussi c'est difficile à entendre, que ça pouvait être une névrose ou une psychose. Mmh. Et puis ensuite, on a eu le diagnostic assez vite, au bout de 3 mois, ce qui est une chance tout de même par rapport à beaucoup d'autres parents qui
attendent. On entendait Lucie nous dire que ça avait pris 2 ans pour son fils.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Nous, on a eu beaucoup de chance dans la prise en charge pour cela. Ce qui est important de dire, c'est qu'en France, la psychiatrie n'est pas égale partout et que tous les parents, évidemment, n'ont pas forcément les mêmes contacts ou les mêmes entourages. J'entendais tout à l'heure le professeur dire tous les soins différents qu'on peut avoir pour un enfant ou un proche. Mm-hmm. Et en fait, ils ne sont pas proposés partout et ils n'existent pas partout.
Christine, je crois que vous êtes de retour. Donc, c'est un ami de votre fils qui vous a prévenu qu'il était en train de faire une grosse crise. Vous avez tout de suite pensé à des troubles schizophréniques ?
Non, absolument pas. Je n'étant pas du tout habituée à ce type de problématiques médicales, j'ai pensé tout d'abord que c'était les effets de la drogue, puisqu'il prenait, il fumait pas mal de hashish.
Ouais.
Et puis, j'ai sur les conseils d'une amie psychiatre, je l'ai emmenée effectivement aux urgences de la Salpêtrière. Et là, on m'a annoncé assez violemment que il était effectivement Il devait prendre un médicament où il devait être hospitalisé. Donc, il a été pris en charge dans cette unité assez rapidement.
On parle encore de pré-jeunes adultes, hein, 18 ans pour vous, Joséphine, 23 ans pour... Christine, 18 ans pour Christine et fille de 23 ans pour Joséphine. Je crois, Ombine, que vous avez
un message sur Twitter. Oui, sur Twitter, Krabine qui nous écrit « Mon frère est décédé de la schizophrénie en 2002, un suicide. C'est une maladie qui touche essentiellement les garçons. » Alors, est-ce que c'est le cas? On va peut-être poser la question aussi. Je me pose évidemment des questions, nous dit Krabine, par rapport à mon fils. Comment déceler chez de jeunes enfants, puisqu'il y a un cas familial là?
Professeur Fabrice Bernat, vous avez entendu la question. Est-ce qu'on peut déceler la schizophrénie
encore plus jeune?
Oui, c'est justement un des enjeux de centres qui se montrent de plus en plus actuellement en France pour un repérage précoce de signes avant-coureurs de schizophrénie, puisqu'on sait que bien avant le déclenchement officiel des symptômes très bruyants comme le délire et les hallucinations, il y a souvent des modifications perceptives ou des croyances un peu étranges qui peuvent être présentées par ces patients. Et lorsqu'on sait les repérer par des équipes spécialisées, eh bien on peut justement prévenir, accompagner un peu plus tôt ces personnes à risque et éviter qu'ils transitent vers une forme de schizophrénie.
Joséphine, parlons un peu de vous. Je crois savoir que vous avez beaucoup culpabilisé par rapport à la maladie de votre fille. Pourquoi ?
Bah parce que quand vous avez un enfant malade, vous le voyez souffrir, vous le voyez dans des terreurs incompréhensibles. Mmh. Vous savez que c'est pour la vie, même si, bien sûr, il y a des traitements, mais ils ne fonctionnent pas toujours. Mmh. Il y a les symptômes négatifs qui sont beaucoup plus complexes pour la vie sociale et pour sortir. Et du coup, vous vous dites que bah, cet enfant, pourquoi vous l'avez fait naître? Pourquoi c'est pas vous qui êtes à sa place? Comment vous pouvez lui éviter ça? Alors, ça se travaille. Hein, et aujourd'hui, grâce aux formations psychoéducation de Profamille qu'on a pu suivre, mon mari et moi, la culpabilité revient de temps en temps, mais je la mets à distance et j'arrive à vivre avec.
Et d'où l'importance en plus que vous soyez bien, vous, pour votre fille,
tout
pour bien l'entourer, car on le voyait avec Lucie, c'est très important pour ces malades de sentir l'amour qui les entoure. Parce que souvent, on parle de ces malades, dès qu'il y a un fait divers, mais ce qu'on ignore, c'est que ces malades ont peur de l'extérieur, ils sont terrorisés par l'extérieur, donc d'où l'importance d'un entourage très présent. Christine, je me retourne vers vous. Comment réussir à ne pas s'oublier en tant que parent, en tant que femme? Est-ce que vous y arrivez?
Oui, bah c'est après effectivement une formation dans le groupe Profamille. On apprend d'une part à leur parler, à re-rentrer en contact avec eux et naturellement accepter leur maladie, mais également à ne pas s'oublier soi-même, puisqu'on est des aidants. On les accompagne, c'est très lourd comme maladie, mais justement, il faut réapprendre à vivre avec, s'adapter. Et pour ça, on a une aide, on a des groupes de parole, il faut être entouré, il faut savoir également y remettre de l'énergie et repartir du bon pied.
Et pour les parents esselés qui nous écoutent aujourd'hui, bien entendre ce que dit Christine, il y a de nombreuses associations et de nombreux groupes de parole qui aident à comprendre cette maladie, qui aident à l'accepter, pour encore une fois être les aidants les meilleurs pour les malades. Merci beaucoup Christine, merci Joséphine pour votre appel et votre témoignage au 39-21. Dans quelques instants, nous allons accueillir Franck, qui a lui été schizophrène pendant à peu près une dizaine d'années suite à un traumatisme crânien et une période de coma de 90 jours. Ça va mieux aujourd'hui, il va nous expliquer comment il vit une vie normale.
Et un extrait du message de Brigitte, maman d'un garçon schizophrène de 23 ans. Les premières crises, première hospitalisation, ont eu lieu quand il avait 16 ans. Brigitte nous dit qu'elle est persuadée qu'il y a un lien avec la consommation de cannabis. Pendant 2 ans, ça a été un enfer. Il avait des crises très importantes. Le SAMU ne se déplaçait pas pour venir le chercher. Après sa majorité, les choses ont été beaucoup plus simples. La maladie a été nommée, les soins sont devenus obligatoires. Aujourd'hui, il est soigné avec des piqûres, il est calme et ça va beaucoup mieux.
Europe 1.
Vous êtes atteint de schizophrénie, l'un de vos proches. Comment la maladie a été diagnostiquée? Comment est-elle prise en charge aujourd'hui? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, 39-21 pour nous appeler. Vous retrouvez Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous parlons de la maladie qu'est la schizophrénie.
Et nous sommes maintenant en ligne au 39-21 avec Franck. Bonjour Franck.
Oui, bonjour à vous, Olivier.
Soyez
bonjour.
Le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Franck. Vous avez été schizophrène pendant à peu près une dizaine d'années, suite à un traumatisme crânien et une période de coma de 90 jours. Décrivez-moi en quelques mots la schizophrénie que vous avez vécue pendant cette dizaine d'années. Est-ce que c'était, comme vous l'avez entendu dans cette émission, une autre voix qui vous parlait, des hallucinations?
Alors non, écoutez, déjà, moi j'ai un physique de rugbyman, donc même si je me coupe en deux, ça fait deux bonhommes de 50 kilos.
D'accord.
Mais non, en fait, c'était pas ça. C'est que je me suis réveillé, déjà, bon, j'étais content de me réveiller. C'est un traumatisme très très grave en moto. Hein.
Ouais.
Et ce qui m'a rassuré, c'est que moi, je me comprenais pas, je me sentais angoissé. Donc j'en ai parlé au chirurgien, puis au psychiatre, parce que dans ces cas-là, on me recherche, vous avez un psychiatre qui vient vous voir et tout. Et je lui dis, est-ce que c'est ce qu'on appelle la bipolarité? Il me dit, non, c'est la schizophrénie. Alors, il me dit, ne regardez pas sur Internet, parce que c'est vrai que quand vous regardez sur Internet, vous tapez bipolarité, schizophrénie. Pareil, les gens qui ont des LOX, les Rasta, tu sais, non, c'est pas parce que vous avez des LOX que vous êtes un Rasta. Ce n'est pas parce que vous êtes schizophrène que vous allez taper sur tout ce qui bouge. Moi, je dis avec beaucoup d'humour, je refais de la moto. La seule chose que je tue, c'est l'été, c'est les moustiques sur ma visière. Il faut arrêter que les gens prennent des informations sur Internet où c'est complètement galvaudé, complètement.
D'accord, mais en fait, on peut dire que certains schizophrènes, hein, on l'a entendu dans cette émission, peuvent vivre ce type de troubles. Vous, elle se traduisait comment, cette schizophrénie, Franck?
Alors, cette schizophrénie, en fait, c'était plus de la paranoïa. J'avais l'impression que tout le monde m'en voulait. Ce principe un peu de victimisation. Et j'avais l'impression que tout le monde m'en voulait. J'avais développé aussi l'agoraphobie, je supportais plus la foule. Enfin, j'étais l'impression d'être toujours persécuté. Alors par contre, j'avais pas de voix qui me parlait dans la tête. Hein. J'avais pas un dédoublement, ce qu'on a cité souvent.
Le professeur Fabrice Bernal l'évoquait tout à l'heure, cette autre partie de trouble, plus méconnue lorsqu'on évoque la schizophrénie, mais il évoquait justement le repli sur soi-même, la paranoïa.
Exact, tout à fait. Le repli sur soi-même, et puis une certaine façon de aussi une honte de savoir qu'on est schizophrène, et une honte par rapport aux autres de ne pas se raconter, de ne pas se dévoiler, parce que, comme je vous disais précédemment, si vous dites schizophrène, tout de suite on vous voit violent, on vous voit taper sur quelqu'un, alors que c'est pas ça du tout. Il y a plein de stades dans la schizophrénie, et à partir de ce moment-là, j'ai été voir un psychiatre, neuropsychiatre et psychiatre. Dire que je suis guéri, je sais pas, parce qu'on se guérit jamais d'un traumatisme crânien et de la schizophrénie, mais pour moi, une maladie mentale, c'est comme un train. Si les rails sont droits et que de chaque côté, vous mettez ce qu'on appelle, entre guillemets, en exagérant, une camisole chimique, des médicaments à prendre tous les jours et que vous respectez ça, il n'y a aucune raison que vous sortiez de la route. Ça se passe très bien.
Professeur Fabrice Bernat, on écoute Franck, on évoque à nouveau un choc qui est différent, qui est celui d'un traumatisme crânien et une période de coma de 90 jours. Finalement, on a à chaque fois un choc émotionnel avant ces troubles schizophréniques.
Alors c'est assez fréquent de retrouver effectivement des chocs émotionnels, mais ces chocs qui vont être souvent plus des révélateurs en fait d'une fragilité que des chocs à l'origine réellement de la maladie. Après, l'exemple que donne Franck juste avant, c'est un cas très très particulier effectivement de troubles psychotiques qui peuvent survenir après des traumatismes crâniens. Oui. Je dirais qu'ils sont des situations quand même relativement rares de ce que les psychiatres sont amenés à suivre, mais qui est une situation tout à fait bien décrite.
Mais en fait, donc lorsque on évoque cet âge de 18-23 ans, on passe obligatoirement par un choc émotionnel. C'est ce que vous constatez à chaque fois?
C'est relativement fréquent de voir des événements un peu stressants, de ce qu'évoquait la personne tout à l'heure. Ça peut être un décès, une rupture, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a simplement un contexte de stress ambiant qui est perçu, ou parfois aussi aucun événement déclenchant vraiment clairement identifié. Ça, c'est quand même à dire.
Alors, Franck, allez-y.
Oui, j'aimerais juste rebondir sur ce que disait Franck tout à l'heure. C'est tout à fait vrai que Internet regorge d'informations erronées sur la schizophrénie, mais je dirais qu'il y a quand même quelques sites d'informations qui peuvent proposer une vision un peu plus objective ou un peu plus claire de ce que sont ces troubles. Je recommanderais notamment le site Psychom ou les sites de la Fondation Fondamentale ou de la Fondation Pierre Deliquer qui mettent quand même à jour une présentation clinique compréhensible de ces troubles et surtout des informations aussi scientifiques qui étayent et qui contredit certaines autres idées reçues qu'on peut avoir sur ces troubles. Mmh.
Franck évoquait le fait de vivre une vie normale aujourd'hui, grâce justement au fait qu'il se soigne, il respecte à la lettre ce qu'on lui a prescrit. Aujourd'hui, la schizophrénie, vous nous l'avez dit, se soigne, mais on sait que le réflexe de quelqu'un qui va mieux, c'est d'arrêter son traitement. Est-ce que vous le constatez ça régulièrement chez les patients ?
Oui, c'est effectivement assez fréquent. À partir du moment où la maladie s'est un peu calmée, qu'on ne sent plus un effet direct du médicament, c'est pas le médicament qui est prescrit dans la schizophrénie, c'est pas un médicament dont on sent directement les effets, en tout cas quand on le prend sur un long terme, ce qui peut tenter justement les patients de faire l'essai d'arrêter le médicament pour voir si par eux-mêmes, en fait, ils arrivent à gérer les choses. Et donc, c'est assez récurrent que les patients soient amenés à interrompre leur traitement une fois, deux fois, trois fois.
Et c'est souvent dans ce cas-là, professeur, qu'on a des suicides lors d'arrêt de traitement.
On a, dans les cas d'arrêt de traitement, non seulement des rechutes des symptômes, mais effectivement un risque de suicide augmenté. Mmh. D'où l'intérêt d'un accompagnement qui, bien sûr, met l'accent sur le médicament, mais pas uniquement, et sur tout l'entourage psychothérapique, l'entourage des équipes de soins pour accompagner les patients dans le quotidien de leur maladie. Et d'impliquer très fortement aussi les familles, puisqu'on a évoqué tout à l'heure, leur rôle est absolument essentiel.
Ouais, essentiel. En tout cas, aujourd'hui, on soigne la schizophrénie, comme vous nous l'avez dit, professeur. On la soigne, on peut s'approcher d'une vie normale, voire vivre une vie normale et se réintégrer dans une société qui, de toute façon, continuera d'être peut-être méfiante par rapport à ça, mais il faut continuer à parler de cette maladie qui est encore méconnue et faire avancer la connaissance sur la schizophrénie. C'est la fin de cette émission. Merci à Franck, merci aussi à Lucie, à Florent, au professeur Fabrice Bernat, à Joséphine et à Christine de nous avoir appelés. C'est grâce à vos témoignages, on sent qu'il est nécessaire de parler des troubles schizophréniques car beaucoup de clichés et d'idées reçues perdurent. On l'a vu, la souffrance psychique est terrible pour les malades, à laquelle s'ajoute souvent incompréhension et mise à l'écart. C'est en parlant de ces troubles que notre société avancera sur la question, car les familles, elles aussi, on l'a vu, souffrent du regard des autres. Il existe heureusement aujourd'hui des réseaux, des associations, des sites internet qui permettent d'être guidés sur les prises en charge, accompagnés comme Schizo Oui, Schizo Espoir ou l'association Promesse. Vous n'êtes pas seul face à cette pathologie. Vous pouvez aller sur ce site Psychom que le professeur Bernard vous conseille.
Et la fondation Pierre Dinicker aussi. Pierre
Exactement. Dinicker, ouais. Et vous pouvez continuer à en discuter entre vous sur notre page Facebook, dans le groupe Facebook et sur les réseaux sociaux.
Oui, on continue de vous lire d'ailleurs via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. N'hésitez pas à nous rejoindre.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble des métiers mal aimés, ceux qui subissent clichés, réflexions, préjugés qui forcent parfois à ne pas avouer ce que l'on fait en société. Alors si vous faites un métier qui a une mauvaise image, ou si un membre de votre entourage fait un métier dit mal aimé, si vous avez l'impression que votre travail ne sert à rien ou qu'il est dévalué, appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire. Ma chère Ambline, j'étais ravi de passer, comme chaque jour, une heure qui passe si vite avec vous. Vrai.